When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Chloé, tu nous as fait un bilan total de tous les moyens de mobilité en vacances. T'as quand même pas fait ça. Je vois, tu sors des notes, il y a beaucoup de trucs marqués.
Alors, je suis partie le 16 juillet. Non, je déconne. Je vais élever le débat. Car c'est mon
merci
rôle dans
merci
cette émission.
Merci Chloé,
merci.
Déjà, je ne vais pas parler de Paris puisque je ne suis pas restée en vacances à Paris.
C'est bien.
Et en fait, mon bilan est un peu négatif parce que vous me connaissez, je suis une grande défenseuse du vélo, qu'on peut en faire partout, même pas en ville, des choses comme ça. Et j'ai pas réussi à me sortir de la voiture en vacances. Donc c'est un bilan pas très positif. J'ai un peu essayé, je vais vous raconter pourquoi. Je suis partie dans le sud de la France et je voulais y aller en train, sauf que je m'y suis pas pris 6 mois à l'avance, donc ça me coûtait 250 euros aller-retour.
Sérieux ?
Ouais. Bravo. Donc, bravo la SNCF.
Hein. Non, seule.
Seul.
Ouais, et donc du coup, je me suis dit, bah, vu que je pars avec mon mec en voiture, ça me coûtera moins cher de prendre de l'essence.
Mais
donc, j'étais
horrible.
Un peu. Je suis partie la mort dans l'âme en voiture. Bon, avec ma C1.
T'es d'accord ou pas, l'âme ?
J'ai pas de micro.
Tu parti avec la mort dans toi.
L'âme nous écoute, évidemment.
Mais j'ai joué au jeu de je ne vais pas trop dépenser d'essence. Donc, on s'est vraiment limité à faire du 110, même quand c'était en descente où la C1 aurait pu pousser à 120.
Parfait.
C'est beau quand même. ça a hyper bien marché. On a vraiment fait beaucoup moins de plein d'essence que les autres fois, donc j'étais très contente. Mais arrivée sur place, je me suis vraiment rendu compte que j'aurais eu l'air un peu bête d'être arrivée en train, parce que déjà personne n'aurait pu aller me chercher à la gare, puisque notre Airbnb était dans la Pampa. Et que sur place, bah, tu voyageais forcément à 5, 10, 15 km pour aller faire tes courses. Donc du coup, c'est un peu problématique. Donc je me suis dit, il aurait fallu.
Mais tu choisis
que le Airbnb
mal ta localisation
peut-être,
d'Airbnb.
Peut-être, mais sauf que tu vois, c'était un groupe de gens, j'avais pas décidé. Voilà.
Ah, okay,
le seul avantage, c'est que j'étais en Camargue, donc pour la première fois de ma vie, j'ai pris un bac pour aller au Franprix.
Oh.
Parce que tu sais, la Camargue, t'as plein de fois où tu dois prendre des petits bacs.
La Camargue, c'est bien parce que du coup, à 19h,
tu rentres chez toi. Oui.
Tu rentres chez toi parce que tu te fais allumer par les moustiques.
J'ai détesté la Camargue, n'y allais jamais, c'est la pire région de
Ah ouais.
Bah oui, les moustiques,
les moustiques
gagné,
font
quoi,
la chevauchée des Valkyries, littéralement.
Gagné, ouais. Ah ouais.
À l'heure de l'apéro, c'est la mort. Voilà.
Non.
Terminé.
Mais voilà, j'ai bien aimé prendre le bac. Après, c'était 6 euros par traversée qui durait à peu près 1 minute 30. Ça m'a un peu fait mal aux fesses. Donc voilà. Premier bilan, pas top.
C'est vraiment formidable.
Deuxième bilan, je suis allée en Bretagne. Pareil, voiture obligatoire alors qu'on aurait pu prendre le train, mais on s'y est pas pris à l'avance parce que la SNCF, voilà.
Mais
excusez-moi, je dénonce.
Passe, Chloé, mais la SNCF,
l'horreur.
C'est la SNCF qui t'empêche de prendre des billets en avance ?
Non, c'est que pourquoi les billets plus tous les prends tard, pourquoi ils seraient chers ? C'est débile. Et pour moi, un billet de train doit être au même prix tout le temps.
Rassurez-vous, je vais leur faire des éloges à la SNCF après. Vous en
cela
pas.
Dit, je vais tenter et je vous dirai, je me suis pris une carte
de
réduction
SNCF. Ils
faisaient des,
réduques,
des super réductions. Ouais. Donc voilà, je vous dirai si ça marche ou pas.
Tu parce payes que, pour éventuellement payer moins cher, c'est ça hein,
ouais, mais j'ai payé 25 euros, donc ça va quoi pour un an, c'est correct. En Bretagne, rien à raconter.
Rien à faire non plus.
C'est vraiment
pas
terrible. Tout le monde veut acheter là-bas, mais.
Je vous parle de la mobilité, pas de ce que j'ai fait en Bretagne, c'était génial. En plus, il a fait 30 degrés, c'était fou. Et le seul petit truc qui est un peu sorti de l'ordinaire, c'est que j'ai pris le bateau, un Zodiac, de l'armée. Et alors, prenons 5 minutes pour que je vous raconte mon expérience, parce que c'était quand même assez dingue.
Ouais.
Alors, on arrive en Bretagne, le berceau de mon cher et tendre, où toute sa famille est, et il se trouve que le père de mon cher et tendre a acheté un bateau à moitié avec son voisin.
Oh.
Et il nous dit, trop bête, je peux pas vous emmener faire un tour sur les îles du coin, mais mon voisin peut vous emmener. On se dit, mince, quelqu'un qu'on connaît pas, chiant. On arrive au port pour prendre le bateau, un petit Zodiac récupéré des anciens Zodiacs de la marine, je crois.
Okay.
Et le monsieur en question je ne vais pas révéler son identité parce que je ne suis pas sûre que j'ai le droit, mais est un des chefs de commando de la marine qui est à Lorient.
Mais non.
Donc j'étais à,
c'est un marsouin,
bien.
Le mec.
Très bien, ça va être sympa.
T'étais au garde à vous ou pas ?
Non, parce que le mec était très sympa. Lui, il est vraiment commando marine. Donc, c'est vraiment les commandos qui s'occupent de faire les assauts à la guerre, quoi.
Mais c'est Rambo.
Il avait un couteau dans son.
C'est Rambo.
Incroyable.
Dans son pantalon, j'avais peur qu'il nous parachute quelque part sur une île déserte et qu'on survive.
Ah, c'est pour la survie. Ça
sentait le commando marine, quoi. J'étais là, oh. Et donc, c'est un petit zodiaque. On va sur l'île d'en face, 25 minutes de traversée, chouette. Pas trop de vagues, pas de dauphins, malheureusement. Mais voilà. On boit une bière sur l'île. Il nous raconte toutes les histoires folles des commandos marines, et vraiment je pourrais faire un épisode entier là-dessus, et notamment que quand tu peux pas amener tes bateaux par la mer, et ben tu les amènes par les avions.
Oui.
Et tu les jettes avec des parachutes.
Tellement stylé.
Donc oui. Il nous a montré quand il jetait ses bateaux par parachute, assez fou.
Et ça, je peux te dire que l'impact carbone, il est négatif. Mon gars.
Ce qui justifie tous les épisodes de Fast and Furious.
Exactement. Et le plus drôle, c'est que du coup les mecs sautent de l'avion derrière en tenue de plongée avec des palmes rétractables. J'ai découvert cette outfit où du coup la palme se rétracte le long de ton tibia pour ne pas te gêner, que tu puisses marcher. Sauf que quand tu sautes de l'avion, et ben avec le vent, elle s'ouvre tout de suite.
C'est de l'ingénierie mais française.
T'imagines le mec qui saute de l'avion.
Voilà, donc du coup on lui a demandé, petit aparté, il nous a dit c'est un peu compliqué parce que du coup tu pars en piqué. Parce qu'avec la palme comme ça, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai vu du coup des bateaux, des zodiacs être jetés d'un avion. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'en Bretagne, pour faire les assauts du coup sur les bateaux, ils s'entraînent, je crois, au moins une fois par semaine sur les ferries qui vont dans les îles bretonnes. Donc tu peux être sur ton ferry avec ta famille tranquille à boire ton coca. Et en fait, t'as 15 mecs masqués qui arrivent, qui grimpent avec le long du bateau. Voilà. Donc c'était
stylé.
Très marrant. Il nous a fait faire le tour de l'île, c'était génial. Donc là, je me dis cool. En plus, militaire dans sa tête, donc on rigole bien. Et sur le retour, il y avait un tout petit peu de vent, pas trop, et il nous dit est-ce que ça vous dit qu'on fasse le retour en mode commando ? J'étais
C'est-à-dire... Le mec, il avait switché. Hein. Ouais.
Je te jette dans l'avion avec des palmes.
Et donc là, naïvement, on a dit oui. Oh, naïvement, là. J'étais à l'avant du bateau à ne pas faire ça. Et donc, du coup, il nous a fait un retour à fond la caisse, c'est-à-dire à 25 nœuds sur le bateau qu'on avait.
Wow.
25 nœuds, c'est à peu près 50 km.
C'est presque 50 km.
On avait une légère houle, donc des vagues. Moi, j'étais à l'avant du Zodiac, c'est là où tu prends le plus de vitesse. Ouais, je ne touchais plus mes fesses sur le boudin du Zodiac. Autant vous dire que j'ai eu des courbatures pendant 3 jours au dos, fesses, cuisses et compagnie. Normal. J'ai cru mourir à chaque fois. Il avait quand même demandé si on savait nager à la base. On n'avait pas de gilet de sauvetage.
Ouais, ça va, les réglementations sont suivies. Quand même. Tu sais nager, ça va.
Donc du coup, c'est très compliqué et très intense. C'est-à-dire que vraiment, tu penses passer par-dessus bord tout le temps et ça va très vite et ça tape vraiment très fort. Et vous savez, il y a des espèces de... Comment ça s'appelle ? Des balises au milieu de... De la modeler, les grosses bouées là pour indiquer au bateau. Et donc il s'amusait à les frôler le plus possible à 25 nœuds et je pense qu'on était à moins de 1 mètre à chaque fois qu'on les frôlait.
Je crois qu'il y a une scène identique dans Uncharted 2.
C'est génial,
c'est
en
fou.
Vrai. En vrai, c'était un vrai plaisir et on lui a un peu posé des questions derrière. Moi, je me suis inquiétée pour les testicules des gens de l'armée.
Ouais,
parce que
j'avoue,
je me suis dit,
c'est
moi,
vrai.
J'ai cru mourir à 25 nœuds. Les zodiacs de l'armée, c'est plutôt 50 nœuds en général, il nous a dit. Donc 100 km/h sur la... Ouais, c'est 50 nœuds.
Ah, ça fonce. Hein.
Et t'es pas assis sur les boudins, tu as des espèces de petits sièges et que tu es par-dessus comme si tu étais sur une selle de vélo. C'est-à-dire que tu te tiens comme un petit cheval et donc ils sont assis comme ça et les chocs sont vraiment moins difficiles.
C'est vraiment des humains hors du commun.
C'est-à-dire que là, moi, à 25 nœuds, pendant 20 minutes, j'ai cru vraiment mourir. Je me dis, quand les mecs font des traversées de 50 nœuds... beaucoup plus longtemps avec tout un harnachement, ça doit être compliqué. Cool. Voilà, donc en termes de test de mobilité, c'était un peu le highlight de mes vacances, c'était très drôle. Est-ce que j'ai envie de me lancer dans la marine maintenant? Je ne sais pas. bilan carbone, je pense, très problématique, mais ça, on s'en fiche. Parce qu'on est dans des vacances, du coup, bilan mobilité un peu négative. Et la troisième étape de mes vacances, c'est que je suis retournée en Bourgogne sur mes terres à moi. Et pareil, en fait, j'avais le fol espoir de pouvoir un peu me débrouiller sans voiture ou des choses comme ça. À chaque fois, je fais train, navette. Donc ça, déjà, j'essaye d'utiliser un peu tous les moyens de transport possibles. Là, pour le coup, j'ai pris le train. Et arrivé sur place, le problème, c'est que le petit village où il y a ma maison, eh ben, du coup, il n'y a pas d'accès. Déjà, depuis la gare, c'est galère. Donc, j'ai réussi à négocier un parking avec le resto du coin pour laisser une voiture sur place. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours une voiture sur place. Et la maison où je suis est en haut d'une montagne où j'en ai pour 5 km de montée. Donc, c'est un peu obligatoire en voiture.
Les fameuses montagnes de Bourgogne. Ouais.
Les fameuses montagnes de Bourgogne, exactement.
Mais il y a une route.
Il y a une route, quand même.
Et ça fait 5 km.
Sauf que je me suis dit... Et ça fait 5 km, donc du coup... À vélo, ça me paraît vraiment difficile.
Et donc ?
Je ne l'ai pas testé, mais du coup, tu te sens un peu con parce que quand tu es en haut de ta petite colline, je vais aller dans le sens de la si tu veux aller chercher ton pain ou faire quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. Quoi. C'est un peu. Je me suis retrouvée à devoir utiliser en plus un petit 4x4. C'est un peu honte.
Oh là là.
T'allais chercher ton pain en Suzuki Vitara.
Non. Car j'ai fait toutes mes courses en une seule fois et je ne suis pas ressortie de la maison.
Elle toute seule en France, un bilan carbone.
Ouais, non mais ce qui est super intéressant dans ce qu'elle relate, c'est que là en fait...
Bon sang, qu'est-ce que t'es obligé de prendre ta voiture
Non mais Chloé a eu un aperçu de la vie de la France normale en fait.
Voilà.
Alors,
j'aurais pas à côté d'un son
Florin. Non mais voilà, c'est pour ça que c'est un peu négatif sur tout ce que j'ai pu dire dans toutes les émissions d'avant, où en fait c'est pas si facile que ça. En plus, vous allez vous moquer de moi, car dans la maison où je suis, il y a deux vélos, un qui est mécanique et un qui est électrique.
Bah alors.
Donc, vous me dites, Chloé, qu'est-ce que t'as foutu ? Je n'ai jamais trouvé comment brancher le vélo électrique. Donc il était à plat forcément, donc du coup je n'ai pas pu recharger la batterie, et donc je me suis dit, plutôt que de prendre la voiture, je vais juste pas manger de pain pendant 3 jours et ça sera pas la mort. Admirer le geste, quand même.
Oui, c'est mais beau. Ça veut dire que tu te rends compte le nombre de fois où, en fait, les gens ont pris la bagnole pour aller chercher des pains au chocolat le matin.
Ouais.
Ouais, et
c'est
je trouve
ouf,
ça...
en fait.
Après, quel est le problème ? C'est que, déjà, je vois pas pourquoi il y a pas les petits camions qui passaient, moi, dans mon enfance, les camions boulangerie, quoi.
Mais eux aussi, ils polluent.
Oui, mais au moins, tu pollues pour plein de moins que si t'as 15 personnes qui vont prendre leur voiture pour acheter les...
Tu vas pas commencer à faire non, mais... le mec à dire oui, on va faire les impacts carbone du bilan de vie des camions de... Non, mais je me pose la question, parce qu'effectivement, une petite camionnette, une estafette, généralement, c'est pas les modèles les plus récents.
Non, mais si tu déplaces un camion qui fait le tour des villages, c'est mieux que 15 bagnoles qui vont à la boulangerie.
Le mieux, c'est quand même une boulangerie dans chaque village.
Oui, mais t'as fait de la logistique.
Alors là, il se trouve qu'en plus, c'est les villages qui sont séparés. Il y avait le village du bas et le village du haut qui est le même village. Il y a la boulangerie dans le village, mais comme je vous dis, j'étais en haut de la colline à 5 km de la boulangerie. Et les routes de la Bourgogne étant ce qu'elles sont, même à vélo, avec des mecs qui roulent à 75 km/h à toute berzingue, t'es pas très rassuré. Donc du coup, je testerai la prochaine fois pour vous en live. En plus, j'irai certainement en automne ou en hiver, donc je vais peut-être tester sous la pluie ou sous la neige, car il se passe des trucs fous en Bourgogne. Et je vous dirai si c'est jouable. D'ici là, je vais essayer de prendre la notice pour brancher le vélo électrique et on verra quoi. Mais voilà, je me suis retrouvée un peu à me dire, c'est pas si facile de se démerder quand t'as pas 1000 possibilités. Même là, on a de la chance d'avoir une navette depuis la gare, mais elle ne passe que 4 fois par jour, donc du coup, faut bien réfléchir à quand. Même 4 fois, je suis sympa. Il faut bien réfléchir à quel billet prendre pour être sur quelle navette. Il suffit que la navette ne passe pas, puisque parfois ça arrive, t'es coincé au milieu de nulle part. Donc c'est un peu, je me suis retrouvée toute bête.
Il n'y a pas de Uber Green.
Si, je pense que tu peux prendre un taxi que tu réserves à l'avance, qui te coûte le même prix que ton aller-retour à Paris, quoi. Donc c'est un peu rageant quoi. Donc voilà, et
c'est
très marrant.
L'expérience de la vraie France quoi.
Ce qui est très marrant, c'est que du coup, j'ai négocié avec le resto du coin pour garer ma voiture et qui est quelqu'un qui la voit pendant que je suis pas là et du coup, j'ai 300 mètres à faire avec ma valise depuis le parking du resto jusqu'à l'endroit où il y a la navette. Et il n'y a pas de trottoir, parce que tu es à la campagne en fait.
J'étais avec ma valise
sur du gravier, avec mes petites sandales, sans trottoir, avec des routes où il y a beaucoup de camions qui passent. Pareil, t'as l'air con, t'as l'air vraiment tout nu et tu te dis vraiment, oui, je comprends que tout le monde veuille une voiture.
J'ai vécu un moment comme ça pendant mes vacances. Vraiment vécu un moment comme ça, très désagréable.
Très désagréable et il y a des choses à faire. J'essaierai de me pousser au cul parce que là, j'avais la facilité d'avoir une voiture aussi à dispo. Donc j'essaierai, je vous raconterai mes tentatives.
Moi, je pense sincèrement qu'il faut reconnaître que c'est la merde, tout simplement. Non, mais c'est la merde.
C'est pour ça que je veux un petit vélo électrique, puisque le dernier highlight de mes vacances, qui n'était plus trop mes vacances, c'est que je me suis retrouvée avec une partie de mon frein de vélo qui a décidé de vivre sa vie indépendamment de mon vélo.
Bien,
Freinit le frein.
Il a
rejoint Chambry, la chambre à air.
Combien 6 ans, 110 euros l'investissement dans le vélo.
Ah non,
c'est
parce
magnifique.
Que je le fais réviser tous les ans. Et donc, du coup, j'ai dû me débrouiller sans mon vélo à Paris pendant quelques temps. Et j'ai dû, par la force des choses, louer des vélos électriques pour faire mes petits trajets.
Et du coup, tu as trouvé ça beaucoup trop bien.
Ça a été une révélation.
Mais c'est terrible. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop bien les vélos électriques. Et à chaque fois, plus personne veut faire d'efforts.
Ah ouais. Mais vraiment, ça a été une révélation. J'avais envie de faire que du vélo. Ce qui m'a arrêté, c'est que je louais les Lime qui m'ont coûté à chaque trajet entre 5 et 6
couille.
Euros.
Oui, ça coûte une couille.
D'ailleurs, je me suis dit, c'est complètement débile que ça soit à la minute parce que j'ai grillé tous les feux rouges pour payer moins cher.
Oui.
Forcément. Et finalement.
Alors, si c'était au feu rouge, respecté.
Mais je comprends pas pourquoi.
Voilà, ouais, distance parcourue, bordel.
Non, mais parce qu'ils aiment bien, ils savent très bien que les gens, ils vont passer plus de temps sur des distances de
merde. Mais alors, deux petites anecdotes pour finir, c'est que je suis tombée sur un vélo électrique qui marchait pas très bien, qui parfois, en fait, l'assistance s'arrêtait. Non, c'était un Lime.
Quand ça s'arrête, tu le sens. Hein.
L'assistance s'arrêtait, et ça s'est arrêté pour les Parisiens, ça s'est arrêté en bas du Père Lachaise, et moi j'habite en haut du Père Lachaise, qui est une montée assez costaud. Et je me suis dit, c'est pas grave, c'est une épreuve, il faut que j'arrive à faire du vélo sans assistance électrique, bref. Et je me suis posé la question à un moment donné de pourquoi ça s'arrêtait, parce que j'ai repris ce vélo pendant 4 jours, parce que j'étais très attachée à lui, je sais. Comme ça, c'était mon petit Lime. Et je me suis posé la question si c'était pas à chaque fois que je grillais des feux rouges, parce que j'avais l'impression que ça coïncidait, et je me suis dit, putain, quel système génial.
Non, je pense
mais
pas.
En fait, non.
Non.
Mais j'aurais bien aimé que ça soit ça, parce que dans ce cas, ça t'incite à t'arrêter. Donc pendant quelques temps, je me suis arrêtée au feu rouge, histoire de vérifier.
Mais n'empêche que ça serait tout à fait faisable, puisqu'ils sont parfaitement géolocalisés, qu'il y a des zones dans lesquelles t'as pas le droit de...
C'est ce que je me suis demandé, est-ce que ça serait techniquement faisable ?
Ça serait largement faisable de mettre des zones à chaque intersection, mais non, parce qu'il faudrait qu'ils sachent...
T'as déjà eu des problèmes sur Twitter, toi, avec les restrictions géolocalisées...
Sur quel truc ? Je me rappelle plus, j'ai des problèmes tous les jours.
T'avais dit que tu voulais brider les voitures à 50...
Ah bah oui, mais ça serait largement faisable, bien sûr. Là, c'est largement réalisable,
je sais.
Et donc, dernière anecdote sur mon vélo électrique, c'est que je suis allée faire réparer mon vélo finalement. J'étais quand même contente de le retrouver et je pars avec lui et je me dis mince, il y a eu un réglage qui a merdé parce que je n'avance pas.
Mais non,
il n'y avait pas d'assistance électrique.
C'est juste normal.
Trois jours, j'ai réussi à m'habituer. Mes muscles avaient oublié l'idée de pédaler. Bah, c'était très compliqué.
Fou,
quoi, très compliqué. Ce qui fait que j'ai vraiment eu envie de passer à l'électrique derrière. Quoi.
Cela dit,
plus poussé jamais. Quoi.
Si, mais d'avoir l'alternative de pouvoir avoir un électrique.
Le problème, Chloé, c'est que tu passes d'un vieux vélo, quand même, très bien, vieux vélo à 110 balles, à un vélo électrique. Et quelle que soit la médiocrité des vélos électriques, de toute façon, c'est 200 watts d'assistance de base, donc c'est d'une facilité déconcertante. Passe juste un vélo de bonne qualité musculaire.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du vélo shaming de la part de monsieur.
Tu verras une différence gigantesque aussi. Tu auras l'impression d'avancer alors que tu pédales pas pareil.
Oui, mais tu vois,
et tu auras un vélo léger et sûrement moins cher.
qu'un vélo électrique avec les aides, mais enfin pas du tout.
Si.
Moins cher que 1600 balles.
Mais vous êtes fous quoi. Bah, hein.
Parce que là, tu vois, je parlais du vélo électrique que je voulais qui est à 2000 euros, moins 600 euros par les aides, donc 1400. Est-ce que t'as un très bon vélo mécanique à 1400 balles ?
Peut-on rappeler le prix du vélo de Ken Bovia? Non, je parle pas du mien.
Je parle de manière générale.
Après, le truc, c'est que moi, j'aime beaucoup faire du vélo.
Oui, pour 600 balles, tu peux avoir un bon vélo. Un Triban, ça fait le taf.
Mais même en occasion, elle a acheté en occasion son vélo. Si tu repars en occasion, bien sûr.
Non, mais en vrai, moi, j'aime bien faire du mécanique. Le truc, c'est que moi, j'habite en haut d'une côte. Donc, du coup, tous les jours, je sais que je vais arriver en sueur chez moi et c'est compliqué. Et tous les jours, à la descente, j'ai peur de mourir parce que les vélos un petit peu d'occasion anciens, bah, les freins, c'est quand même pas génial puisque c'est du frein.
Oui, mais ça, pareil, c'est un patin. Un bon musculaire avec des vrais freins, avec le problème
oui, bien sûr,
frein à disque, quoi.
Mais pareil, je lui demandais quand je changeais mes freins sous la pluie, je freine plus, moi, en fait. Ça ne
marche
plus.
Oui,
il m'a dit, bah oui, en fait, non, parce que tout ce qui est
à patin,
tu voilà, il y a un problème. Bref.
Je me rappelais pas que ça a freiné aussi mal sous la pluie.
Ah non, c'est vraiment pas top.
Sous la pluie, vraiment, tu prends les freins et tu pries.
Ouais.
Ah, d'accord.
Ouais, donc moi, je me suis fait des bonnes frayeurs.
Ouais, ok.
Et là, tu vois, ce qui était génial avec cette électrique, c'est que j'ai pu faire beaucoup de trajets avec mon mec qui a un électrique. Et en fait, c'est génial parce que tu t'attends pas, tu es ensemble, tu rides, tu t'amuses.
T'avais jamais essayé son vélo ?
Si, mais pas avec lui.
Le Van Mouf.
Ouais, le Van Mouf. Alors que là, de rider à deux dans Paris, on a fait ça le soir en rentrant du cinéma,
je
tu vois. C'est...
Je comprends.
C'est tellement bien.
C'est compliqué parce que...
Sur les bonnes pistes cyclables
oui, parce que
de Paris.
Rider à deux dans les pistes cyclables de Paris, genre celle de boulevard Richard Lenoir, c'est compliqué d'être côte à côte.
Non, je parlais des nouvelles notamment.
Ah. Okay.
Qui sont justement celles du Père Lachaise, celles de l'Avenue de la République, voilà. Même pas les celles de l'Avenue de la République.
Elles sont unidirectionnelles,
ouais,
mais
unidirectionnelles
à deux voies.
Et à deux voies.
D'accord.
Mais ce qui est cool, c'est que le fait d'avoir une assistance qui est bridée à 25, c'est par défaut, du coup, tu roules à peu près au même, à la même vitesse. Quoi. Moi, je pense que l'un des principaux avantages des vélos électriques, c'est que des gens qui... ont un niveau hétérogène, tu peux rouler en même temps et qui parce que c'est ça le kiff
bah
en fait,
ouais,
c'est de rouler en groupe
à la même vitesse. Et de toute façon, je te jure, hein, vu la gueule des pistes cyclables, c'est même dangereux de rouler plus vite en
ah
fait
oui,
parce
non,
que
non,
l'obstacle
c'est...
arrive vite, tu vois, au dernier moment et tout, c'est la
bien
merde.
Bien entendu.
25 c'est bien.
Donc
25
voilà.
C'est bien.
J'avais donc, fait donc je pense qu'il faudrait dans mon programme pour être présidente de la République.
Dis-moi.
Je pense qu'il faudrait équiper tous les gens de France d'un vélo électrique.
Mais je pense que dans un avenir certainement pas trop lointain,
oui.
Tous les vélos de base seront électriques et il faudra...
Après, on va avoir un problème d'électricité,
non.
De fourniture d'électricité.
Il faudra le vouloir pour avoir un vélo musculaire. Genre, ça sera comme les platines vinyles, tu vois. C'est quand tu en veux une, c'est toi qui vas la chercher, quoi. Tu vois, mais tous les vélos...
Bah, si ça peut inciter plein de gens à s'y mettre et à kiffer comme j'ai kiffé, moi, je trouve
c'est
ça
un...
trop bien.
C'est un excellent trade-off. Hein. Franchement, c'est le vélo électrique est pour moi à la mobilité ce que le SSD était à l'informatique. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que t'en as mis un dans ton ordinateur, tu peux plus jamais revenir de ça.
Non, si tu peux.
Non, tu peux, mais c'est
oui, mais
t'as
parce
mal
que toi,
au cuisse,
t'avais... Non, t'avais pas un bon vélo électrique, toi. T'avais un, t'avais un cow-boy.
C'est un bon vélo électrique, t'es fou. J'en ai essayé plein.
S'il vous plaît.
J'ai essayé le Grail On là avec le Fazua, exactement comme le tien.
C'était pas le Fazua le Grail On, c'est un Bosch à la con.
C'est vrai que j'avais un Bosch, mais pas à la con. Mais j'ai essayé aussi le Commuter On avec le Fazua et j'en reviens parce que. Des foutus vélos qui pèsent 20 kilos, j'en ai rien à foutre, tu vois.
Oui, mais
c'est
le mien ne fait pas 20 kilos.
Beau.
Il fallait prendre un Endurason.
Il fait 16, frère.
Il fait 15, cousin.
Arrête, il fait jamais 15.
Il fait 15.
Et 15 kilos, c'est deux fois le poids de mon vélo.
Oui,
c'est, beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile de bouger, de ranger, de déplacer.
Mais bah voilà, il a
mis 4000 balles dans son
non,
vélo.
Non, 3000.
Franchement, c'est la même chose.
3000 pour un vélo qui fait tout et que je peux laisser dehors.
Non, mais t'as
contrairement
t'as
à monsieur cadre carbone.
Mais des vélos à 8 kilos qui coûtent 600 balles, il y en a des tonnes sur Troc Vélo. Arrêtez de la faire à l'envers. Un vélo léger, c'est extraordinaire pour la mobilité au quotidien.
Je suis d'accord. Mais c'est meilleur pour la santé en plus. Mais, enfin, c'est meilleur pour la santé. Ça a plus de bénéfices.
Ça reste à prouver. Hein.
C'est vrai.
Ouais. Ça reste à prouver.
Quoi qu'il arrive,
quoi
le
qu'il
vélo
arrive.
Électrique régnera, même si on est là. C'est un peu, finalement, comme la fin des V12 atmosphériques. Chez Ferrari, bien entendu, on n'aura pas le choix. On va marquer, du coup, la deuxième partie de l'émission avec petite deuxième news coup de gueule. C'est parti.
Et oui, news polémique, puisque je vais parler
ça
de,
fait
mon,
que râler ici.
De mon milliardaire favori, aka...
Elon Musk,
ouais. Qui, on a appris récemment dans ses mémoires que son projet d'Hyperloop...
il a écrit ses mémoires, lui.
Il a fait écrire ses mémoires.
D'accord.
Okay. Par son biographe, je sais pas comment on dit, bref.
Oui, c'est ça.
Un livre sur sa vie, son œuvre. Que l'Hyperloop, il y croyait pas du tout et que c'était un truc qui était conçu pour faire dérailler le projet de grande vitesse de Los Angeles.
Mais what the fuck?
Et que c'était vraiment un acte de lobbying pour vendre du rêve et pour.
Il a mis ça dans sa biographie.
Il l'a avoué.
Il est fou, quoi.
Il l'a avoué.
Ok.
Donc, ça c'est assez raccord. Et l'autre truc dans les technologies qui sont vouées à mourir avant qu'elles soient nées. L'autopilote de Tesla.
Ah,
allez, là c'est polémique, là on rigole.
Non, ah, l'autopilote en fait, de Tesla moins bon que la Chine.
Ils ont fait j'ai vu une vidéo d'analyse qui comparait les chiffres d'accidentologie, mais corrigés. Parce qu'en fait, ils comparaient des choses qui n'étaient pas comparables, c'est qu'ils prenaient l'accidentologie au nombre de morts par kilomètre, comme ce que tu disais tout à l'heure, en ville ou pas en ville. Et donc, on a pris les chiffres d'accidentologie de Tesla utilisés sur les highways et ramenés aux véhicules utilisés par des humains.
Mmh.
Et c'est au mieux la même chose et souvent pire.
Bah évidemment.
Ah ouais.
Et du coup, ça a couplé au fait que ça fait 5 ans qu'il nous dit que demain on aura des voitures qui se piloteront toutes seules, que le prix de l'option est passé de 7000 à 15 000 $ et qu'on a découvert récemment que quand tu avais l'activation de l'autopilote, si jamais il y avait un choc, il se désactivait une seconde avant l'impact.
Oui.
Pour que.
Safe.
Pour, voilà.
Safe.
Ah, non, c'est pas, on n'est pas responsable, il n'était pas activé au moment de l'impact.
Safe.
Donc ils ont mis un fail-safe dedans. Donc c'est vraiment
c'est
un nom formidable. Hein,
non, genre, mais c'est vicieux, mais c'est bien trouvé. Je suis désolé,
c'est vicieux, mais c'est bien trouvé. C'est, quand même c'est vraiment la pire des raclures, ce mec. Genre vraiment.
Non,
c'est...
mais là, je pense que c'est ton avis personnel qui prend le pas sur l'objectivité du propos.
Alors, deuxième avis, enfin, dernier avis critique sur Tesla. Je pense que Tesla va avoir du mal à survivre ce que j'appelle la deuxième génération de voitures électriques modernes.
Oui.
C'est-à-dire qu'en gros, ils ont sorti le modèle S3X
et Y
pour
faire sexy
et c'est déjà gros lourd je pense que cette gamme là
non mais c'est vrai hein, ils voulaient faire sexy
mais je sais
on se retrouve enfin, là avec on se retrouve avec Volkswagen qui fait des véhicules électriques enfin tout le groupe Volkswagen
mais c'est
Audi, Porsche,
évident que
les Coréens commencent à lancer des voitures électriques les dernières Kia elles sont incroyables et je me demande
la Hyundai.
Sincèrement
la Hyundai qui ressemble à une Lancia Delta.
Ouais, elle est la Ioniq.
Ioniq 5. Ouais.
Hyundai, pardon.
Ioniq Trunks.
Alors
je tiens à préciser que dans les pubs radio de Hyundai, ils disaient Da Hyundai. Ouais, voilà, ouais, merci.
Ça voilà. Se dit Hyundai en coréen ?
Non, on dit Hyundai.
Hyundai.
Ok.
Hyundai.
J'irai vérifier. Mais c'est pas impossible que Tesla. Parce que Tesla, ça fait quand même 3 ans qu'ils nous disent on va sortir le Roadster, puis le Semi, puis le Cybertruck.
Prank.
Et genre, il n'y a rien qui sort en fait.
Non.
Ça fait...
Bah, il n'y a rien qui sort, mais ils occupent le marché quand même. Donc, si, il y a des choses qui sortent.
Et, sauf que ça fait plusieurs mois qu'en Europe, c'est plus Tesla qui est dans le top des ventes.
Alors, c'est faux, parce que ça reste le véhicule électrique le plus vendu.
Oui, ça reste le plus vendu en chiffre total. Mais là, quand tu ramènes sur les chiffres sur les trimestres, ça commence à avoir un peu de problème.
Bah oui, mais c'était évident que Tesla, le seul but de Tesla. Enfin, le seul but. Le constat de Tesla, c'était simplement de servir de lièvre. Pour que les constructeurs historiques qui sans Tesla n'auraient pas bougé un poil de cul pour essayer de faire des véhicules électriques se mettent sur le marché, c'est tout. Hein.
Oui, mais je pense pas que. La
législation les en oblige, hein. Donc si, ils auraient bougé quand
la
même.
La législation les oblige maintenant parce qu'on a eu un engouement de ouf qui fait que les gens se sont dit ah, peut-être que les gens sont prêts. Sans ça, il se serait rien passé.
Je ne dis pas que Tesla n'a pas révolutionné le marché.
Je
dis juste qu'ils sont en risque de louper le moment de maturation.
Je suis pas en train de dire que Tesla a révolutionné le marché. Je suis en train de dire que Tesla a donné une tendance et a montré que les gens étaient beaucoup plus prêts à basculer que ce qu'on pensait.
Moi, je vais aller plus loin. Je pense que le Model S est le véhicule le plus important du 21e siècle.
Mmh. On va se calmer quand même.
Je pense
que c'est le vélo électrique.
Non, le véhicule à 4 roues du secteur automobile.
Oui, alors non.
Je pense que ça a vraiment dynamité la phase du marché automobile, tu vois. Et pourtant, je suis pas un fan de Tesla. C'est-à-dire que je.
Mais il y a justement, si vous avez.
Il y a un avant après, comme il y a un avant après Prius.
Si vous avez l'occasion, il y a une vidéo YouTube d'un des cofondateurs de Tesla, les vrais cofondateurs, parce qu'on sait que Elon Musk a changé le machin pour être mis comme cofondateur de la marque, qui explique. La genèse de Tesla et comment ils ont abordé le truc en pur start-upper et c'est très très intéressant, ça dure 25 minutes, c'est super cool.
C'est sur YouTube ?
C'est sur YouTube, c'est une conférence que le mec donne, je sais plus comment il s'appelle, Marc quelque chose, et il explique que lui il voulait disrupter un truc avec son pote, quelque chose, il voulait disrupter l'industrie pétrolière, donc ils ont fait une bête étude de marché sur qu'est-ce qui pollue le plus. Donc, au pétrole, le transport, après il a regardé le transport, il a fait qu'est-ce qu'on peut changer nous. Ils ont dit les avions c'est le plus polluant, ouais mais c'est chaud, parce qu'il y a vraiment beaucoup de réglementation. Il reste les voitures, et à partir de là en fait ils déroulent le fil de sa pensée pour arriver à on va faire des voitures électriques chères, et franchement c'est incroyable. Parce que ça te montre vraiment que les mecs ils ont pris ça en mode, on veut juste disrupter le marché, on s'en bat les couilles, on y connaît rien.
Et ça marche. Je rajoute sur les ingénieurs de Tesla qui n'y sont plus, le chief engineer et ses responsables qui ont sorti en gros, qui étaient alors pas crédités mais qui en gros étaient responsables de la sortie de la Model S et de toute la gamme actuelle, ont quitté l'entreprise et sont maintenant chez Lucid, qui est la marque qui a sorti la
La
Lucid Air.
Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que le nom Lucid est nul à chier?
Oui, non, mais ça,
voilà, merci, j'étais pas sûr. Voilà,
mais en tout cas, ça expliquerait en partie le fait qu'ils arrivent, ils ont du mal à sortir du bois et à sortir des vrais trucs. Parce que quand, à chaque projet que Elon touche, ça a du mal à aboutir.
Parce qu'il y a aussi un pick-up électrique qui est très sexy, un pick-up américain qui s'appelle le Rinté. Alors, le R1T, donc R1T, oui, en français, c'est comme...
C'est le Rivian.
Rivian, voilà. Ouais, R1T. Ouais. R1T. Donc, en français, c'est nul.
MR2, pour les...
Bah oui. Etron, pour les Audi.
Pour les Audi.
Voilà, donc...
En fait, c'est juste drôle en français, quoi.
Oui.
Pour rebondir sur les voitures électriques, je sais pas si vous avez vu passer ce tweet, des photos des Tesla avec des groupes électrogènes. Parce que ils les rechargent avec des groupes électrogènes.
Oh, mais quel enfer.
Et donc, il y en a même un qui a installé une petite plateforme à l'arrière de sa voiture pour pouvoir balader son groupe électrogène partout.
Et en faisant ça, magnifique. il a recréé une Opel Ampera. Ouais. Qui était une très bonne idée, hein, parce que c'est l'Opel Ampera.
C'est le fuel cell, en fait.
Le principe, non, parce que le fuel cell, c'est une pile à combustible.
Bah là, c'est
un peu ça.
Une pile à combustible.
C'est un peu ça.
Bah non, c'est moteur thermique qui recharge une voiture électrique. La pile à combustible recrache de l'eau. Donc
non, parce qu'elle est
hydrogène. C'est
une pile à combustible à essence.
Voilà,
mais
c'est
non,
ça.
Mais la promesse de l'Ampera était, je trouve, très intéressante. Il s'était dit, un moteur type groupe électrogène qui tourne à une cadence fixe et avec une puissance limitée.
Consommer pas trop.
Consomme moins. Pour au final te permettre quand même d'avoir la flexibilité de faire le plein en station normale. Ouais. Et moi je trouve que c'est pas idiot.
Non, mais
on aurait dû avoir ce truc-là en intermédiaire entre le tout.
L'idée de consommer 2 litres au 100 pour en faire 200 à vitesse normale, mais tu les consommes quand tu roules pas.
C'est exactement ce que Toyota fait et on leur a chié dans les bottes avec les boîtes de vitesse CVT qui sont les boîtes à trucs hélicoïdaux comme les scooters en fait. C'est-à-dire que tu accélères sur ta voiture. Et en fait, au lieu d'avoir une boîte de vitesse automatique avec des rapports, c'est le moteur se met sur la plage où il est la plus efficace. Et en fait, ton moteur, c'est pas un truc qui fait qui bouge ton véhicule, c'est juste un générateur d'énergie.
Ouais.
Et en fait, ils couplent ça avec leur système hybride. Donc en fait, ton moteur, il est à charge constante là où il consomme le moins et là où il est le plus efficace,
voilà,
comme si c'était en sixième tout le temps sur l'autoroute.
Et ça avance sur l'électrique.
Et ils ont fait ça avec la dernière Yaris Cross qui fait moins de 2 litres au 100, je crois, sur le truc.
Bah,
alors que c'est un SUV qui a le CX d'une brique.
Pousser la technologie hybride jusqu'au paroxysme
du
maximum.
C'est les Japonais. On a un concept, là, les gars, ça fait 25 ans. On te le ponce. Le truc brillant, quoi.
Jusqu'à l'avenir. Bref, voilà. Elon Musk, on rappelle, hein, avec les modèles
sexy.
C'est quoi les modèles sexy? Évidemment, la modèle 3 qui n'en finit pas d'augmenter le prix si bien qu'aujourd'hui, la modèle Y est moins chère.
C'est vrai?
Incroyable.
Mais les deux étaient en...
Absolument incroyable.
Mais les deux étaient au même prix, normalement?
Ah, pas du tout. Non, le modèle Y était 7000 euros moins, plus cher, au moins.
Parce que le 3, c'est une petite S, et le Y, c'est un petit X.
En théorie.
Ouais, c'est ça. Bon, on va dire oui.
Ouais,
moi, plutôt le Y, c'est un gros 3. En fait.
Je m'arrive sur le bizarre, j'ouvre une bouteille d'Arizona. C'est quoi ce truc?
Voilà. Eh bien, écoute, donc évidemment, bon, vous faites ce que vous voulez. On embrasse Chrono, évidemment, qui a acheté sa Tesla favorite.
Elle est très belle.
Récemment, et on va enchaîner avec les derniers sujets des vacances. C'est parti. Voilà pas mal de temps depuis le Covid que je me pose des questions sur comment profiter de vacances, bouger, voir du pays sans avoir à prendre l'avion. Et m'est venue l'année dernière l'envie, la proposition après une négociation dure. Mais abouti avec ma très chère et tendre moitié de parcourir nos vacances en itinérance cycliste à vélo. Ce que l'on appelle le backpacking ou que l'on appelle l'itinérance à vélo. Et pour cela, on a commencé à regarder quels étaient les meilleurs moyens de faire justement de l'itinérance à vélo avec, on va dire, toute la naïveté de ceux qui découvraient un peu la discipline. J'en avais un peu déjà parlé dans Commute. Mmh. On s'était vraiment rendu compte du peu de choses qui étaient nécessaires à la vie, en vrai, lorsque l'on voyage à vélo et qu'on se pose la question de comment voyager avec le moins de choses nécessaires et vitales. La théorie du 3 slips, un sur soi, un qui sèche, un propre au cas où.
Il sèche comment celui qui sèche?
Oui, il sèche sur le porte-bagage, voilà. Sur le porte-bagage, ouais. Voilà.
La théorie du trois slips dans les rayons du vélo. T'as.
Exactement, la théorie du trois slips qui fonctionne très bien. Cet été, nous sommes partis sur les routes du sud pour suivre la Via Rhôna, une piste cyclable qui longe les voies du Rhône, partant du lac Léman et atterrissant jusqu'à, tenez-vous bien au choix, là le choix va être très difficile, Marseille ou Montpellier. Hein, vous faites ce que vous voulez.
Oh.
Vous faites ce que vous voulez.
J'ai choisi
Montpellier. J'ai choisi Montpellier. Et pour ce faire, le meilleur point de départ en partant de Paris, c'est Lyon. Donc on s'est dit qu'on allait partir de Lyon et qu'on allait aller jusqu'à Montpellier sur la Via Rhôna, 450 km du coup d'itinérance à vélo.
En combien de jours?
En 5 jours, je dirais.
C'est pas mal.
5 jours.
Un rythme soutenu quand même.
Oui, moyenne de 90 km par jour, ce qui est vraiment tranquille.
Je sais pas si je partirai en vacances avec toi.
Non, c'est un furieux. Ouais.
Madame est partie en vacances avec moi. Ouais, j'ai fait à deux. Hein.
Ça ne veut rien dire.
T'es pas, j'ai
je te
pas
rappelle que j'aime pas marcher à New York, moi. Donc
Mais le vélo, c'est plus simple que marcher. D'autant plus que c'est le bon sens. Hein, je vous rappelle, de Lyon jusqu'à la mer, ça descend tout le temps.
Ouais, mais t'es face au vent.
Non, même pas. Ah. En vrai, je vous assure que même pas. Ça dépend, on va dire, ça dépend des jours. Et surtout, ça dépend de la météo qui, sur cet été, a été plus qu'incertaine. Pour le coup, on n'était même pas sûr de pouvoir partir le jour même de notre départ.
Mais toi, t'es maudit de tes vacances, en fait.
C'est incroyable. C'est absolument incroyable.
Je sais pas qui t'a vexé là-haut, mais...
Écoute, je ne sais pas non plus, mais quoi qu'il arrive, on s'est dit que si on n'y allait pas, on n'y irait jamais. On a quand même fait le choix de partir. Et à part une journée qui a été catastrophique, où on a dû en effet prendre un petit train intercité pour faire le trajet, tout s'est très bien déroulé. Et justement, je vais revenir là-dessus. Pour nous rendre à Lyon, nous avons donc pris le TGV Paris-Lyon. Donc Inouï Ouigo, justement, pour aller jusqu'à Lyon, qui nous a coûté un truc genre 40 € par personne.
Ouigo,
un truc comme ça.
Oui, parce que c'est la ligne la plus chère de TGV normalement.
Eh oui, avec 10 € de plus pour les vélos. Mais voilà, lorsque nous sommes arrivés en gare de Lyon à Paris, que nous sommes arrivés à quai, malgré la réservation de place pour nos vélos, nous avons constaté que d'autres personnes avaient réservé les emplacements vélos. Car oui, sur un train pouvant comporter combien de passagers, Victor?
600, non?
Déjà?
Sur
TGV Ouigo Paris-Lyon?
600?
Non, en plus, si t'as une...
Ah, c'est deux rames de 600, peut-être 1002?
Ouais, 600 personnes. Ouais.
600 personnes, par il rame. Y a, tenez-vous bien, deux emplacements.
Pour vélo non démonté.
Pour vélo non démonté.
Ah, parce que les vélos démontés, il y a des places?
Non. Oui, mais
c'est
non.
Vélo démonté, si t'es dans un truc, c'est considéré comme bagage. C'est,
oui, tu peux le transporter en bagage.
On rappelle ce que c'est qu'un vélo démonté?
Qu'un vélo démonté, c'est un vélo dans lequel tu as retiré au minimum la roue avant, mais essentiellement les deux roues, que tu rentres dans une sacoche et qui est globalement dans un sac que tu peux transporter à la main. Voilà.
D'accord. Donc tu ne traînes pas, quoi.
À la main. Il peut y avoir des roulettes sur ce sac. Mais en fait, quand on part en itinérance à vélo, notre point de départ, notre point d'arrivée n'est pas le même.
Oui, c'est ça. Parce que tu ne peux pas te balader avec un truc.
Tu ne peux pas te trimballer avec tes sacoches de vélo. C'est juste pas possible, tu vois. Nous sommes arrivés en gare de Lyon. Et il y avait des gens, évidemment, qui avaient réservé, qui étaient montés avant à la vélo. À ce moment-là, deux stratégies s'offrent à nous. La stratégie du Parigo en colère qui veut partir en vacances et qui rentre en versus avec, évidemment, les agents de la SNCF.
Dit la stratégie du DAZ.
Voilà, exactement.
Qui n'est pas gagnante.
Voilà, stratégie qui a été pratiquée par un cycliste devant nous et qui s'est soldé par un échec critique assez
CBRPF
terrible sur le quai. Et la stratégie de la bonhomie, de la joie, du sourire. Oh, mais regardez, bonne foi, j'ai pris mon billet, mes voyages. Non, malheureusement, je n'avais pas vu qu'il y avait des gens ici. Gentillesse est là, incroyable. Mais les agents de la CNCF, quand on est gentil, sont incroyablement gentils. Nous sommes allons donc négocier avec les personnes qui étaient présentes ici et qui avaient aussi leur vélo pour partir en vacances à Lyon. Et on leur a demandé si on a des petits vélos, ils sont légers, ils prennent pas beaucoup de place, c'est de canyon. Est-ce que ça vous dérange qu'on les met juste à côté de vous? Et tenez-vous bien, dans un emplacement pour deux vélos, eh bien,
on
peut en mettre quatre. Et sans aucune difficulté, et sans gêner les voies de déplacement au milieu.
À partir de la rentrée prochaine, ils facturent le double et maintenant ils mettent 4 vélos.
Ah,
c'est pas vrai.
Non mais franchement, faites quelque chose, on peut mettre 4 vélos.
Je vais faire un ticket.
Déjà, oui, encore une fois, ça dépend aussi du vélo, non ? S'ils avaient eu des méga trucs gigantors, tu vois. Avec,
oui, bien sûr, mais là encore, la fameuse théorie du vélo petit, léger. En fait, quand tu arrives avec ton vélo, même dans le train, les gens se battent trop intimidés par le truc, tu vois. Ils se disent, oh, ça va passer, ça, c'est tout petit. Et du coup, ça aide quand même bien à se faire placer. Voilà, au demeurant. Tout s'est bien placé du coup dans le trajet, mais la sympathie et la gentillesse a été... voilà. Bon, après, on était de bonne foi. Sur le retour, on était d'extrêmement mauvaise foi, et je vous expliquerai comment on a fait. C'est juste formidable.
Moi, petit aparté, j'ai emmené mon vélo en Italie dans le TGV.
Sacoche-toi.
J'avais une valise que j'ai louée. C'est très chiant, parce que même les valises démontées...
C'est très chiant.
Enfin, il y a pas assez de place. Le truc il est tombé. Il s'est mis sur le côté, mais il y a pas de souci. Okay. Tu vois, genre le truc il était bloqué, mais c'est.
On rappelle hein que vous déplacez partout en France avec vos vélos, mais que en même temps vous voulez que vos vélos restent comme s'ils étaient encore sortis du magasin.
Non, c'est pas mon cas.
Parce que là, il a quand même noté que le vélo s'était penché sur le côté. J'aurais même pas calculé ça.
Je suis ultra maniaque avec mon vélo.
Je fais de l'itinérance, donc moi j'ai pris des cailloux. Il y a déjà des pètes de peinture. Enfin, il pèterait un câble. Mais bon, peu importe.
Non, moi je suis
fou.
Mais faut accepter ces névroses.
Arrivé à Lyon, nous avait prévenu que les premiers kilomètres allaient être difficiles parce que en fait. Lyon a de magnifiques pistes cyclables sur les bords du Rhône. Absolument sublime.
Ça a gagné la bataille contre Paris.
Incroyable.
Ouais,
Absolument incroyable. Donc Lyon à vélo, magnifique. Par contre, banlieue de Lyon à vélo.
Vaux-en-Velin.
Ah, moins fun. Moins fun. Vraiment moins fun. Hein. Ouais. Par contre, dès que tu passes les 30 km, tu arrives sur la vraie Via Rhôna. Et là, on a une piste cyclable quasiment flambant neuve, aménagée, 100% isolée de. Quelques voitures que ce soit qui longent le Rhône visible la quasi-totalité du temps, c'est un pur bonheur. Et sur l'ensemble de cette voie, donc ces arrêts, on faisait des stops toutes les 90 km. Sur ces stops, on avait un hôtel la plupart du temps. Tous les hôtels ont accepté que l'on puisse mettre nos vélos d'ailleurs à l'intérieur des chambres. Ils n'ont vraiment pas été embêtants avec ça. Encore une fois, bien aidé par le fait que nos vélos semblaient un peu petits. Un peu chers aussi, peut-être.
De l'avantage hôtels, de faire 1m60 et d'avoir des canyons à 5000 boules.
C'était des hôtels de quel standing?
Franchement, c'était appart hôtel... du cube, BNB Hotel, les trucs à 90, Schlag.
Part hôtel du cube.
Schlag, il y avait deux cracos à côté, c'était vraiment ça, quoi. Il y a qu'à Avignon, on avait un hôtel en plein centre-ville qui était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Sur la Via Rhôna, il y a des postes vélo.
Ouais, j'ai vu ça.
Qu'est-ce que c'est que les postes vélo ? C'est absolument incroyable. Ce sont des postes où vous pouvez stationner votre vélo, recharger votre vélo électrique, où vous avez. Un ensemble d'outils nécessaires à la réparation, l'entretien, le gonflage des roues.
Mais accessible...
Accessible à tous sur la piste cyclable. Il y a vraiment pit stop avec tout ça. Et il y en a tous les 80 km.
Mais on est en France. C'est pas vandalisé au bout de 10 minutes ?
En fait, tous les outils sont accrochés, on va dire,
avec des câbles super compliqués.
Vous avez des distributeurs de capotes, donc de chambres à air, etc., accessibles aussi, avec même des prix qui ne sont pas abusés. C'est incroyable. Alors, on n'a pas eu vraiment de problème, sauf sur les 5 derniers kilomètres. Évidemment, c'est très drôle. Mais constater ça, ça a été vraiment juste bonheur.
Et du monde ?
Y avait personne.
Ah ouais.
Pourquoi il n'y avait personne ? On a croisé quelqu'un justement sur la route à proximité justement d'une des zones de réparation de vélo où on pouvait aussi faire pipi, qui était dans un fauteuil roulant électrique. Donc personne n'était à mobilité réduite et son kiff c'était justement de rouler sur les pistes cyclables au bord du Rhône, magnifique, justement pour se faire un trajet. Et il nous disait que en temps normal, 6000 personnes apportaient ces routes par jour, tu vois. Et qu'aujourd'hui, en tout cas le week-end dans lequel nous voyageons, on n'était que 300. La raison à ça, c'est que les annonces météo étaient catastrophiques. Personne n'a envisagé de prendre le vélo pour faire des itinéraires sur la Via Rhôna. Et pourtant, on n'a eu quasiment jamais de soucis. Jamais de soucis, sauf évidemment au deuxième jour où on savait que ça allait être très très dur, où là, Vraiment, le monde nous est tombé sur la tête. Alors, je vous passe dans le bled où on s'est arrêté, qui était littéralement une zone industrielle dortoir où il n'y avait que des entreprises qui recrachaient, on va dire, moult choses dans l'atmosphère, des odeurs, comme jamais je n'avais senti, même au Havre.
La vallée du Rhône, c'est un des trucs, les pétrochimiques, est le plus
voilà,
pollué.
C'est ça. Je ne sais pas ce qu'ils fabriquaient là-dedans, mais à mon avis, c'était pas naturel, je pense. Donc on est arrivé dans un vraiment, je pense, l'appart hôtel le plus pété de l'histoire. Et là, on va sur Google et on se dit, tiens, on va aller prendre le meilleur resto du coin. Il n'y en avait qu'un.
Au tacos.
Évidemment, non, c'était vraiment un resto pas mal. Le truc, c'est qu'il était à 3 km du coup, enfin 2 km de l'endroit où on était. Et on s'est dit, putain, il y a 2 km, vas-y, on y va à pied.
Et là, la phase.
La phase officielle, il n'y a qu'une nationale à 90 pour aller de l'appart hôtel au restaurant. Le seul moyen de s'y rendre, c'est à vélo. On était en PLS sur l'herbe, dans l'herbe du bas-côté, comme ça, avec les voitures qui faisaient boum, 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 comme ça.
Oh là.
On arrive là-bas à 19h30,
ils servent
rentre
plus.
Dans le resto et on nous dit on est complet.
Ah yes, c'est une anecdote. C'est la même.
Est-ce qu'avec la bonhomie que tu as, t'as réussi à faire installer une petite table?
Non, bonhomie ou pas bonhomie, on est complet. Si on est complet, l'humble Cabela, 2 km retour,
oh là là.
En découvrant d'ailleurs un magnifique magasin qui vendait des arbustes et des arbres pour, on va dire, les grands jardins, les grandes terrasses. J'ai découvert que certains arbres pourraient être vendus 30 000 euros.
Ah bah oui,
gardés par un chien sous cocaïne, extrêmement énervé, qui à chaque fois que l'on frôlait le truc, et c'est terrible. Donc tu prends la phase la première fois là, et le chien arrive, wow, comme ça, tu sursautes ta peur, retour, tu sais, tu peux pas prendre la phase. Mais après 2 km à pied à se faire voler par les voitures, t'oublies le putain de connard de chien et tu reprends la phase et tu te fais peur. Marcher à côté de la route, c'est nul. Voilà, ne faites pas ça.
J'en ai une similaire. Après donc le troisième jour de notre trip en vélo, on arrive enfin au parc où on avait prévu d'arriver. Donc on avait trois fois pareil 80-90 bornes de vélo avec des vélos surchargés. Et nous, on avait toute notre vie, on avait le matos de camping, on avait tout. Les vélos, ils faisaient 20 kilos. Et donc on arrive au parc naturel de la Mauricie.
Ouais.
Déjà, les park rangers nous voient arriver avec nos vélos sans voiture. Ils nous ont dit, mais c'est qui ces aliens là? Avec le mode, elles sont où vos voitures? Non, non, on est venu comme ça.
Normal.
On arrive jusqu'au camping, si tu veux. Et au camping, sur le dépliant du camping, c'était marqué qu'il y avait un dépanneur. Un dépanneur, c'est la petite supérette où tu vas acheter à bouffer.
Une
quoi.
Épicerie, ouais.
Une épicerie. Et donc, on se pointe. Le mec nous dit, ah ouais, en fait, lol, il y avait ça sur les flyers, mais on l'a jamais construit. T'es en mode, super, les gars, merci. Donc, je dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais regarder un dépanneur et tout. Et le dépanneur, j'ai dû redescendre à 11 km pour aller chercher les trucs à bouffer. Et ils avaient des hot dogs, donc les saucisses à hot dog surgelées, mais pas le pain à hot dog.
Ah ouais.
Ils avaient rien du tout, donc en gros, et genre, Hello, elle m'a regardé, elle m'a dit, genre, elle m'a pris en pitié, elle a dit, non, je fais l'aller-retour, s'il te plaît, moi, j'en peux plus. Et du coup, je suis allé faire le truc, et c'était pareil, borde nationale, le truc complètement décrépit. Ça, c'était un peu le dark side du Canada, ça.
Quel enfer. Je me suis rendu compte aussi, parce que j'ai fait plusieurs expériences en bikepacking. J'avais fait, du coup, la Vélocénie un peu avant, et puis la Vélo Maritime aussi, juste avant. Et je me suis vraiment retrouvé dans ces trajets-là à le faire avec la sacoche de sel classique, tu sais, la banane qui pendouille à droite à gauche, la sacoche de cadre aussi, donc accrochée à ton cadre, qui a tout dans, souvent tendance à toucher aux roues. Et je me suis dit, aujourd'hui, je veux vraiment avoir un système qui est propre, adapté quand même à un vélo de route et qui me permet d'emporter une grande quantité de choses pour enfin avoir aussi du matériel pour réparer les vélos, un gonfleur, etc., etc. Et j'ai investi dans un système complet, donc un rack pour vélo...
Oh mon Dieu,
ouais, un petit rack pour vélo
mettons
pour
plus, vélo acheté carbone. T'as acheté le rack de dentiste ultime, là. T'as acheté
tais-toi.
Un Telfin.
Ouais, j'ai acheté un Telfin.
Voilà.
Et j'ai acheté
Ken Bogard,
l'ensemble du système Telfin et c'est game changer.
J'ai remis un billet de 10 000 euros sur mon vélo à 15 000 euros pour mettre
ce qu'on peut. Parce que moi, je suis le lien avec les auditeurs les plus proches de la vie réelle qui nous écoutent. Tu as acheté un porte-bagages.
J'ai acheté un porte-bagages.
Mais pas n'importe lequel.
Ah, si tu as acheté un porte-bagages. J'ai acheté un porte-bagages en carbone.
Ah oui, en carbone ou en alu. Enfin, moi, j'ai pris en carbone parce que je suis un Yankee.
T'aurais pu prendre en or.
J'aurais pu prendre en alu. Mais oui, j'ai acheté un porte-bagages qui était vraiment fait sa fonction de porte-bagages. Bien entendu, ça a l'air d'être débile comme ça.
Non. Moi, le porte-bagages, figure-toi que je cherche vraiment un joli porte-bagages.
Lorsqu'on joue sur un vélo de route et que vous n'avez pas d'accroche pour les porte-bagages, eh bien, vous avez besoin d'un système qui se fixe convenablement. Et le système Tailfin utilise le moyeu arrière de la roue pour fixer justement son système. Et il est à la fois léger, pratique. Enfin, bref, j'ai transporté nos affaires complètes pour libérer totalement Marina des affaires de voyage.
On précise que du coup, avec ton porte-bagages, via un système propriétaire, tu ne peux pas accrocher n'importe quelle valisette sur le côté de manière optimisée.
Si, grâce au moyeu qui te donne, grâce au moyeu qui te donne, tu peux accrocher, je sais pas, une remorque. En fait, le moyeu te permet d'accrocher plein de trucs.
Tu vois, okay, sur les bagages. Le porte-bagages.
Ouais.
Qui d'ailleurs est très profilé.
Ouais.
On est d'accord que là-dessus, tu vas pas poser un sac à dos avec trois tendeurs. Tu vas poser des sacs qui se clipsent.
Franchement, si. Franchement, tu peux.
Ah ouais, tu peux.
Ouais, franchement, je peux.
Je suis sur le configurateur du site. Là, j'ai tapé juste carbone avec deux paniers de 22 litres. J'en ai pour 690 balles.
Oui, ouais. Et lui, il a payé plus cher.
Ouais, j'avais payé le top case aussi.
Oh putain. Voilà. Est-ce que tu peux dire le prix de l'ensemble?
Oh merde, 890 l'ensemble.
Oh là là. Voilà. 900 €. C'est-à-dire qu'avec sa technique de 3 slips. De toute façon, il n'aura jamais pour 900 balles de marchandises.
Ouais, en fait, t'aurais pu partir à Hawaï, mec.
Non, ça veut dire que les gens viennent, ils te volent ton porte-bagages et les valises, ils les vident. Ils n'ont rien à foutre de ce qu'il y a dedans et ils partent avec.
T'as un système anti-vol pour éviter qu'on te pique le porte-bagages, mais bon, quand bien même.
Le vélo fait 7 kilos
par avec. C'est excessivement cher, mais c'est vraiment très bien fait. Et tu te dis, t'as investi dans un gros porte-bagages. Bon, j'ai vu des porte-bagages pour des vieux scooters de merde, hein, qui coûtaient parfois plus cher et tu pouvais mettre moins de trucs dedans.
Ne serions-nous pas dans un biais de l'acheteur là?
Peu importe. L'importance en tout cas du bag, le fait est que tout ce que j'avais, les systèmes que j'avais achetés avant, je vais tout revendre car plus rien ne me sert. Là, je peux transporter mon ordinateur dans ma sacoche arrière, quoi, sans aucun souci. Donc je vais maintenant au travail sans sac à dos, sans machin.
Beaucoup de sacoches de vélo.
Sans que ça tape dans tous les sens.
Il y a aussi une chose.
Tout en étant très léger, aérodynamique.
C'est que il est très. Stylé. Alors, moi, je l'ai vu, j'ai vu les stories, j'ai regardé, j'ai dit, c'est un système qui m'intéresse.
Ouais.
Après, j'ai vu le niveau d'ingénierie du truc, j'ai dit, je vais quand même lui demander le prix. Il me l'a donné, et j'ai dit, ah, quand même.
Ils sont pas chiés. Hein.
Ah, quand même, 800 balles le porte-bagages.
Non, il y a hors clip, parce qu'en fait, l'intérêt, pourquoi t'as acheté ça? C'est parce que t'as pas d'œillet pour mettre.
C'est exactement ça. Il y a zéro œillet pour mettre.
Pour les auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas ce que c'est les petits trous qui permettent de monter un porte-bagages, glisser un porte-bagages derrière. Ouais. Hors clip fait aussi un truc moins stylé, mais
avec des straps et des velcros.
Non, avec un truc, tu vois, qui est pas mal, mais qui a.
Bah, alors ça, c'est exactement ce qu'on a sur les trucs de D4. Non, mais franchement, je salue la recherche du beau.
Ouais.
Parce que c'est très beau.
Je voulais ce qu'il y avait de mieux.
Ouais.
J'ai pris ce qu'il y avait de mieux.
Et c'est vrai que j'avoue, si tu te fais voler ton vélo, putain, ça fait.
Oui, mais non, mais en fait, regarde, parce que j'ai réfléchi longuement en regardant ces stories et je me disais, mais quand même, l'homme est fou. Mais en fait, tu as un vélo à 110 €.
Oui.
Tu achètes un porte-bagages à 10 €.
Oui.
Ton porte-bagages coûte du prix. Un dixième du prix du vélo.
Ah,
et il a un vélo à 7000 balles.
Ouais.
Non, j'ai un vélo à 4000 €. Calme-toi.
Okay. Bon, j'essayais de. Il a un vélo à 4000 balles, donc déjà, il paye un porte-bagages à 400 balles. Normal.
On est dans l'épaisseur du trait.
Mais ça n'empêche pas le fait que si tu te fais voler. C'est compliqué comme investissement.
Tu peux pas te faire voler, c'est impossible.
Il dort dessus.
Ce qu'il t'a pas dit, c'est qu'il y a trois slips, et en fait, dans le slip, il y a le vélo aussi.
Il dort dessus, c'est sûr. C'est-à-dire que là, on est au-delà de...
Mais ça veut dire que, par exemple, si tu veux t'arrêter pour aller visiter quelque chose pendant une heure,
c'est pas possible.
Tu angoisses pendant une heure de ne pas
être... Le mec ne se dit pas, on risque de me voler mon vélo, il se dit, mon porte-bagages. Et moi, je trouve ça incroyable. Parce que quelque part, c'est une paix de l'esprit. Tu dis, dans le pire des cas, le porte-bagages partira, mais le vélo sera là. Ah oui. C'est un bait.
N'empêche que quand t'arrives à Longchamp, le dernier coup, je suis allé à Longchamp en short, claquette, avec le porte-bagages à l'arrière et je suivais les trains à 40, ils me regardaient bizarre quand même.
Surtout sur ces qui ce clown là.
Moi je respecte
la daronie ultime, c'est-à-dire que t'as embrassé enfin ton truc des sectes, c'est tu mets tous les potards à 11 et go, tu vois.
Ouais, mais c'est comme ça, plutôt que d'acheter.
Moi je vous rassure, hein, je suis là pour défendre le vélo à moins de 200 balles.
J'ai commencé à acheter 30 trucs de merde et ces 30 trucs de merde me servent à rien. Donc aujourd'hui, j'ai acheté un truc bien.
Mais un tendeur, ça coûte 2 balles à Decathlon.
Non, mais un tendeur, ça arrive à
pas. C'est moins cher qu'un tendeur de balles sur mon porte-bagages de mon daily, là. J'ai une chambre à air crevée que j'utilise comme élastique.
C'est vrai que ça marche bien. Mais moi, j'ai toujours un tendeur sur moi et dans ma voiture, puisque j'ai fait moult déménagements, le coffre ouvert, vu que c'est une C1. Et que le tendeur marche
jamais. On sait jamais quand tu déménages.
Non, le problème du tendeur, c'est que esthétiquement, c'est quand même pas ouf.
Oh, écoute, il y a plein de choix de couleurs.
Il y en a des sympas.
Ça fait partie de l'esthétique.
Quand on était parti l'année dernière faire nos 160 km.
Toi, t'étais schlag, mais bien.
J'avais fait ce que j'appelais le ghetto packing, ouais. C'est-à-dire de la ficelle.
C'était de la ficelle
et un porte-bagages Décathlon mal fixé.
Il a saucissonné.
Qui frottait le pneu et ça marche.
J'ai aussi fait énormément, vous savez, de longues distances pour faire ça. J'en ai parlé parce que ma première partie de vacances a consisté à partir de Paris et à retourner dans mon village, dans mon bled d'origine, à vélo. Voilà, ça a été ma première partie de vacances. Voilà, je l'ai fait avec mon ancien système, que j'avais toujours, donc la sacoche de selle classique et la sacoche de cadre. Et en testant les deux, quand tu as une sacoche de selle qui est en fait accrochée à ton rack, fixée directement comme ça, elle ne tangue quasiment jamais, la stabilité du vélo est bien meilleure,
c'est vachement mieux, le truc c'est que moi ça me fait juste marrer que t'aies acheté un vélo de course pour aller vachement vite machin et tout, et que tu l'as transformé pour faire une randonnée.
En vrai, je fais tout avec.
Le mec a mis une galerie sur une Ferrari.
C'est les vrais bourgeois. Ça.
Sachez que rien.
Acheter une Porsche et mettre des ventouses pour.
Non mais rien n'est définitif. Vous savez, ce système-là, il se retire, il se met en 10 secondes chrono.
Je sais.
Donc c'est un truc.
Non mais c'est une expérience philosophique, c'est la non permanence.
Je veux un vélo pour tout faire. Ouais. Et oui, les accessoires me permettent d'avoir le vélo pour tout faire. Voilà. Bref, je continue donc pour mon histoire de voyage absolument extraordinaire. Donc oui, on était peu à cause des intempéries. Donc jour de pluie incroyable après avoir pris le chien dans la gueule terrible. Au final, on a fait ce qu'on a pu. Là, on a dû parcourir du coup.
Comment vous avez mangé ce soir-là du coup?
Ce soir-là, en fait, on avait 10% de réduction. Aux courtes pailles d'en face de notre hôtel.
Donc c'est la bourgeoisie.
On est allé
à 890 euros, mais aller bouffer aux courtes pailles parce que t'as 10%.
Promotion.
Ça, c'est énorme. C'est énorme, mec. Franchement.
Ça a été un excellent repas parce que il y avait qu'une seule rampe d'accès aux courtes pailles, c'était des petites marches comme ça.
Deux seules personnes
pouvaient passer et devant nous on est arrivé pile poil quand une petite mamie de 80 ans, on va dire à mobilité très difficile, devait monter ce qui semblait être 256 marches pour aller aux courtes pailles. On a donc mis littéralement 20 minutes à rentrer au resto.
Faut faire comme Longchamp, tu gueules à droite.
Pardon. Bref, c'était excellent. Le lendemain matin, pluie. Vraiment, c'est le torrent, la fin du monde, Sama. On décide de filer du coup au TER le plus proche pour aller dans la prochaine destination juste après.
C'est combien de kilomètres? 90 encore?
90 kilomètres. C'était 90 kilomètres. Donc nous, on avait 10 kilomètres à faire jusqu'au TER. Et là, je me suis rendu compte que valait mieux que je sois derrière ma moitié. Parce que quand il fait grande pluie, celui qui est derrière prend toute la flotte dans la gueule de l'autre.
Oui, mais celui qui est devant se prend la résistance du vent.
Ouais. Ça va mieux, franchement. Ah ouais, crois-moi, ça va mieux pour lui parce que j'ai fini trempé de la tête aux pieds, machin.
Parce que bien sûr, alors, porte-bagages en carbone aérodynamique, mais zéro garde-boue.
Non, mais en fait, mon porte-bagages fait office de garde-boue, du coup. Tu vois?
Mais donc, du coup, tes bagages font office de garde-boue.
Ouais, mon porte-bagages arrière, celui qui fait office de sacoche de chef, fait office de garde-boue. Par contre, devant, j'ai pas de garde-boue déjà. Donc, déjà, la route devant m'en envoie, mais surtout, c'est la roue arrière de madame qui m'en envoie plein de filles. Bref. Super pratique de prendre, vous savez, les TER, les trains intercités, tu rentres le vélo dedans, point final, il y a zéro embrouille, zéro machin, toujours de la place, il y a même des endroits pour les accrocher, si vous voulez, sur les murs, c'est vraiment trop bien. Là, j'ai croisé quelqu'un qui partait pour faire une course, visiblement, un semi-Ironman, 1200 km, visiblement, dans le massif central, et j'en regarde son vélo, je fais... C'est un vélo en titane que vous avez là. Oui, vélo en titane, incroyable. Dernière génération, Rouen 40. Il avait l'ensemble de l'équipement pour être en totale autonomie, je pense, pendant 4 jours tout seul. Magnifique. On a discuté, très sympa. C'est incroyable les relations que ça peut créer, le vélo. Et on a continué, du coup, ensuite, le jour d'après, sur l'ensemble de cette via qui était quasiment tout le temps... absolument excellente, peut-être manquant un peu de points d'eau, mais j'ai découvert du coup une magnifique application, ça s'appelle Mono, je crois,
ah oui,
si je dis pas de bêtises, où tu peux aller dans les commerces et où tu peux avoir des indications sur les points d'eau à proximité. Ouais. Donc à la fois les endroits où tu peux te baigner et l'eau potable qu'il y a. Et
je croyais que bon sang, c'est pratique. Les cimetières étaient le...
Oui, les cimetières, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été fermés avec la sécheresse.
Et il y en a peu sur les pistes cyclables, en vrai, des cimetières.
C'est vrai, quand on y pense, c'est logique.
Pas très très visible quand tu
non,
regardes
non,
bien.
Quand tu roules, bah, sur les Garmin maintenant, tu peux, enfin sur pas mal de GPS, tu peux aussi les noter en avance pour si tu fais ta trace, tu peux, t'as certaines applications qui te montrent les points d'eau où tu peux te ravitailler. Mais cet été avec la sécheresse, c'était particulièrement, je sais qu'au Ventoux que t'as fait, bravo.
Félicitations.
Il y a eu une bonne partie de l'été où toutes les fontaines étaient fermées.
Ouais, ça m'étonne pas.
Ça, franchement,
j'ai eu l'impression d'avoir fait le Ventoux moi aussi, juste en te suivant, j'étais
fatigué. Oh, c'est adorable, c'est vraiment adorable.
Ah oui, non, vraiment.
Donc, arrêt à Avignon, et là, à Avignon, j'avais décidé moi de prendre un jour justement pour faire mon Ventoux. Cela dit, le jour qui précédait, je regarde l'application météo et ça m'indiquait orage, pluie. Toute la journée de demain, vous ne pourrez rien faire, c'est impossible. Le lendemain matin, je me réveille aux alentours de 6h30, j'ouvre un œil, je regarde derrière, je fais « bon sang, il pleut pas ».
Là, il y a une ouverture.
J'ai 60 km à faire quand même pour aller au sommet du Mont Ventoux, depuis Avignon. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Chérie, j'y vais, sinon je vais le regretter toute ma vie.
Let's go.
J'ai pris le vélo. Pleine balle jusqu'à Bédouin, donc qui est le start-up, on va dire, du
vrai nom.
Hein.
Incroyable.
Ouais, Bédouin. La ville incroyable.
De l'ascension la plus dure. C'est-à-dire que le mec se dit, j'ai jamais fait le Ventoux, j'y vais pleine balle et je prends l'ascension la plus dure au cas
où j'en pourrais être sûr de pleuve, bien.
Là, le temps de prendre une chocolatine, pain au chocolat, tout ce que vous voulez, et trois iced tea, histoire de café de sucre, j'enfile sur le Mont Ventoux et je découvre du coup cette ascension absolument mythique, magnifique dans les deux premiers tiers, puisque vous traversez des forêts somptueuses, gavées de randonneurs, vous croisez évidemment plein de cyclistes, plein de motards aussi, complètement fous. Et dramatique sur le dernier tiers.
Où t'es apte,
paysage lunaire, vent de face. À la télé, ça rend trop bien. C'est d'une laideur.
Chie. Hein. Là, c'est le moment où c'est toi et face à ta douleur.
C'est ça.
Moi, j'ai juste vu Ken Bogard. En fait, t'avais le taux de story à la minute. C'est-à-dire que toute l'approche, il y avait des stories toutes les 45 secondes. Le mec, il était en train de
raconter sa vie. Après, plus rien pendant une heure.
Genre, ouais, alors là, je suis en train de pédaler, les aïstis et tout. Et tout d'un coup, après il y a eu une story pendant un quart d'heure et ensuite je suis Ken Bogard, j'en chie, la douleur est ultime. Et genre vraiment le mec, et ensuite il y a eu 4 stories et on le voyait, il était de plus en plus violet, le mec.
Donc, on rappelle donc Bédouin, c'est 20 km d'ascension à 7,6% de moyenne.
Non, c'est la douleur.
En vérité, ça commence à monter avant Bédouin et avant ça, j'ai 40 km dans les pattes.
Oui, c'est ça en fait. C'est que pour y aller, tu t'es tapé déjà 40 bornes.
J'ai quand même eu la confiance au début où j'ai déplacé un petit groupe de cyclistes, dont une petite dame très charmante. Et arrivé près du chalet Reinhardt, j'entends quelqu'un derrière. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont rattrapé. Et là, c'est la petite dame, sans déconner, 45 kilos à mon avis. Hein, un vélo, ça doit être comme le tien, rien à foutre. Hein, moi, j'ai pas un vélo.
Elle a bien raison.
Elle m'a déposé. Déposé littéralement.
Avec un vélo pas électrique.
Un vélo
pas électrique. Ton fixe.
On a quand même discuté 1 ou 2 kilomètres sur l'ascension. Et je dis, mais t'as l'habitude de faire du vélo, t'en fais depuis quand? Fais, ah non, moi, je fais de la marche. Donc en fait, Elle m'a même mis incroyable. La tonne du team. Non, je suis pas sûr.
J'adore, mais ça, c'est l'esprit Sangoku. C'est l'esprit Sangoku qui devient un expert sans faire exprès.
C'est,
tu vois,
c'est énorme. C'est bien. C'est énorme. Faites du vélo régulièrement. Non, jamais.
Non.
c'est énorme.
C'est incroyable. Bon, je vous assure, en haut du Mont Ventoux, à 1900 km, t'as pu voir, toi aussi, la vue est quand même magnifique.
Ouais, ouais.
J'ai pu apprécier l'orage en approche.
Non, mais c'est enfin, vraiment, je le dis comme je le pense, c'est de la merde.
C'est de la merde, ouais.
Genre, vraiment, c'est toi et ta douleur. T'apprécies 20 minutes et après t'es genre en mode mais pourquoi je fais ce sport de con en fait.
Ouais,
genre,
j'ai kiffé quand même. Hein.
Ah non, mais toi tu fais 1m20 et 3 kilos. moi qui étais avec mon. Bon, j'ai pas fait dans les meilleures conditions, mais je l'ai fait après un mois d'arrêt et je faisais presque.
Et avec un vélo de lock.
Avec un vélo de lock et je suis arrivé en haut. Vraiment, bon, en plus, moi j'ai pris la pire humiliation de ma vie. C'est pareil, on était avec Adrien qui se reconnaîtra s'il nous écoute. Qui était avec son triban, ses sacoches, machin, il avait un vélo à 10 kilos. Le mec, au début, tu vois, je me suis dit, bon, j'y vais doucement pour le pacer, pour pas le cramer.
Ah,
oh,
la base.
Et genre, à un tiers, il m'a mis une petite claque, c'est comme si c'était Kylian avec
tu
son
peux
enfant.
Avancer, s'il te plaît.
Il a fait, genre, c'est bien, mec, et, tu vois. Et genre, il a continué, il a crevé, il a eu le temps de réparer son vélo, de remonter son vélo, et de finir avant moi. Et moi, j'étais en mode, ouais, super.
Adrien Néo-Kétaro
non, un de ses potes, Idrian, sur le Discord.
Malgré ma préparation, depuis Bédouin, j'ai mis 2h05 à arriver en haut, ce qui est pas non plus.
Ce qui est pas dégueulasse.
Ultra ouf, mais qui est pas dégueu.
Mais alors, rétrospectivement,
la descente. Oh, ah bah oui, je parle de la descente.
Peur, hein. Ah bah oui.
C'est la première de ma vie, du coup, que je faisais comme ça. C'est ultra flippant. Et ouais. Là, bon sang, qu'est-ce que t'aimes tes freins à disque dernière génération du DI2. Tu les kiffes.
Mec, je les ai fait avec le vélo de lock à frein à patin que je connaissais pas. Genre, vraiment, quand tu commences à descendre, parce que moi, je suis redescendu verso, là. Je sais pas si tu vois, à gauche, quand tu descends de l'observatoire, j'ai lâché les freins, j'ai regardé mon compteur 75.
Voilà, c'est ça.
Tu fais genre, ok, il y a un demi-millimètre de lycra qui me sépare du macadam. Là, il y a un ravin, je le loupe,
j'ai
je suis 600 mètres plus bas.
J'ai donc vraiment constaté que 70 km/h, c'est la vitesse à laquelle je me fais pipi dessus à vélo.
Ah ouais, bah oui.
Voilà, littéralement.
Mais tu peux tout à fait le faire beaucoup plus lentement, j'imagine. Si tu
en fait, il faut être sur les freins tout le temps.
Ouais, sauf que tu niques tes freins, en fait. Ouais. Le but de bien descendre en vélo sur des descentes longues, c'est de pas être sur les freins, parce que sinon tu les crames, et après, tu freines plus. Donc
quand vous savez, très prudent, puis j'ai appris à freiner convenablement pour éviter de faire les soleils et tout. Et j'étais suivi par un Anglais qui avait fait l'ascension derrière moi et qui, à la fin, m'a remercié parce qu'en fait, il connaissait aucun point de freinage. Il pensait que sûrement j'étais du coin, mais pas du tout. Pas du tout. Et du coup, il s'est basé sur moi pour avoir tous les points de freinage des passages de chicane. J'ai piffé toute ma life. J'étais d'une prudence assez incroyable. Ouais. Mais c'est un gros kiff. Gros kiff aussi, le retour. 40 km pour retourner à Avignon, faut quand même y retourner après la descente. C'est que du faux plat descendant. Et quand tu viens de monter le Ventoux,
c'est d'une facilité.
Tu as l'impression, tu as l'impression de voler, c'est incroyable. J'avais les jambes qui pédalaient toutes seules. Je voyais des 35 sur le chrono. Je suis pas fatigué. Qu'est-ce qui se passe?
Ça, c'est le seul avantage de quand tu fais de la montée avec ton chien. Parce que t'es là, genre, moi vraiment, la montée du Mont Ventoux, j'ai eu 2 heures de douleur intense. Et genre, tu te dis, mais pourquoi j'en chie pour avancer aussi peu? Genre, cet arbre là, ça fait 5 minutes que je le vois et je l'ai toujours pas dépassé.
Alors, vous aviez quand même une solution simple.
C'était d'y aller
en vélo électrique.
Ouais. Bah, j'en ai vu quand on fait l'ascension en vélo électrique.
Mais non.
C'est maudit parce que
j'en ai vu qu'on fait.
C'est quoi la distance?
Non, c'est possible. Il y en a plein qui font le vélo électrique, c'est 20 km et en fait, bah, en mode éco, c'est complètement okay. Complètement ok. Par contre, je les ai tous dépassés, hein, les vélos électriques. Hein. C'est pas garanti. Hein. Ça reste le Mont Ventoux, faut le respecter quand même.
Parce que tu vois, moi, je sais que je suis nul en montée. Je sais qu'avec le poids, ça va pas. Je suis pas bon, je suis pas fait pour ça. Par contre, je me sentais un peu chaud en descente. Tu vas au Ventoux, tu te fais régler. Genre, il y a des types. Tu te demandes comment c'est possible humainement d'aller aussi vite sur des pneus aussi fins.
Ouais, c'est
genre, parce qu'à la télé, quand tu les vois descendre les cols,
tu te dis,
c'est chaud, mais ça va. Franchement, quand tu l'expérimentes, tu te dis, mais.
Je te jure, Chloé.
Bon, on fera une émission sur le Mont Ventoux, les gars, d'accord?
C'est flippant. Bref, les descentes, c'est flippant. Globalement, voilà. Donc, retour et ensuite fin de cette Via Rhôna. Vraiment un kiff du début à la fin. Plus on descend, plus on a les villages un peu médiévaux, les villes un peu médiévales qui sont là. Plus on a les châteaux aussi aux alentours. On peut tout voir. Il y a énormément énormément de vélocistes sur le coin, ce qui m'a permis d'ailleurs de réparer une erreur assez fatale que j'ai commis avant de partir. C'est-à-dire que vous savez, les fameux systèmes, transmission électronique, tout ça, putain, c'est vachement bien. Par contre, quand tu oublies de recharger un peu ton truc...
Ah, et t'avais pas pris le chargeur ?
C'est madame, en fait, j'avais oublié le chargeur de son système ITAP SRAM.
Nice.
Mais on est arrivé chez un vélociste et il nous a... très gentiment accueilli, nous a rechargé les batteries gratuitement et on a pu repartir tout en discutant un peu de la pluie et du beau temps. Voilà, je suis arrivé à Montpellier. Avec Montpellier, je trouve une ville assez peu adaptée finalement au vélo. Il y a beaucoup de trams avec des croisements pistes cyclables, pistes de tramway, on va dire technique.
Il faut des gros pneus.
Voilà, assez technique. Et ouais, même la circulation semble pas trop aimer non plus les cyclistes, ce qui m'a permis d'ailleurs de voir madame crever à 5 km de la fin.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà, et de changer en plein cagnard par 40 la piste cyclable pour qu'un, on va dire, un vieux local passe à côté, nous regarde, fait « Mais vous êtes bête, il y a de l'ombre là à 5 mètres de vous, pourquoi vous vous mettez pas là pour changer la roue ?» Juste, je lève la tête de la roue, je regarde. Putain, merde, il a raison, qu'est-ce que je me crame le cœur.
Ah, c'est parisien.
En plein cagnard, ça. Le mec, connard.
Le mec, il a dû dire ça. J'ai dû voir deux parisiens, ils étaient en plein cagnard, alors qu'il y a de l'eau à côté. Incroyable.
Voilà, Montpellier, c'est superbe. On fait des bisous, en tout cas, à la famille et à Pokagourou. Et on est rentré, du coup, à la gare de Montpellier pour repartir sur Paris. Mais voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
La distance est longue, moins il y a de trains avec des emplacements vélo. Et là, nous le savions pertinemment, c'était sacoche obligatoire pour rentrer. J'ai dit à madame, TKT, la bonhomie. On est arrivé, donc à la gare de Montpellier, tu rentres même pas sur le quai. Il faut présenter ton billet ensuite après, patte blanche, est-ce que t'es bien là, machin, sinon tu rentres même pas. On arrive, on a nos vélos, la naïveté. Ah, il faut des sacoches. Oh, mais je suis sincèrement désolé. On vient de Lyon. On a fait tous ces kilomètres.
On a fait 600
C'est vraiment très difficile. Mais regardez, on a payé notre emplacement vélo. Si vous voulez, je peux le démonter. Si, malheureusement, j'ai pas de sacoche. Je suis vraiment désolé. Et là, tu tombes toujours sur une personne très sympathique. Fait, allez. Il y a toujours un wagon, tu sais, où c'est le wagon pour les employés, là, à côté du bar et tout. Et souvent, dans ces wagons-là, il y a des grands emplacements pour des grosses valises. Mmh. Là, il y avait quasiment personne dans ces emplacements. On dit, démontez la roue avant de votre vélo, si c'est possible, et mettez vos vélos là. Ça ira, normalement, on sera passé. On va poser les vélos dans ces emplacements-là. On s'est posé sur une place juste à côté. Et voilà, la dame est là. Elle nous a dit très clairement... deuxième partie du train quand même, la première partie les contrôleurs sont pas sympas.
Ah.
Et on est rentré avec nos vélos, la roue démontée.
Les mecs sont
dans le train.
Pas eux là, ceux voilà. Du fond là, eux ils sont cool.
La sympathie, la sympathie. Amie. Et j'ai 100% de ratio de victoire sur la sympathie.
Toujours jouer la carte de l'ignorance. Je savais pas et tu souris, tu dis ah non mais désolé comment on peut faire.
Sincèrement désolé comment on peut s'arranger machin et on y
ça,
arrive.
Ça joue.
Cela dit, bon même si je remercie la SNCF pour sa sympathie. Je déplore quand même que ce soit
pas plus
si difficile de voyager sans vélo. Autant pour aller à La Rochelle, aucun problème. On sent qu'ils ont l'habitude que les gens aillent sur l'île de Ré à vélo.
Oui.
Donc le trajet pour aller à La Rochelle, il y a plein de places vélo. Mais Lyon, c'est pas quand même, Beyrouth. Enfin, je sais pas, c'est pas à l'autre bout du monde. Et il y a deux places vélo non démontées. C'est vraiment trop triste, je trouve.
Il faudrait comme les bus aux États-Unis, un petit truc à mettre à déplier devant le train.
Pour taper les sangliers en plus. Ouais. Non, mais c'est parce que tout le monde va à Lyon en voiture quand tu vas faire du vélo, en fait, je pense, tout simplement.
Mm. Non, l'autre solution, c'est.
Parce que Lyon en voiture, c'est quoi? C'est 4 heures.
Tout à fait. Ouais. Mais
un
bon,
peu plus.
Alors on va dire, arriver dans Lyon, t'as très souvent.
La Rochelle, l'île de Ré en voiture, c'est 6 heures.
Je termine avec une petite notation d'un florilège de cyclistes croisés sur la route et sur cette Via Rhôna. Classé par niveau de 0 à 5, bien entendu, que pouvons-nous croiser comme cyclistes sur les pistes cyclables des voies d'itinérance de vacances? Niveau 0, le retraité sur Guimbarde de 1945. Vous avez tous croisé probablement celui-ci. Hein. Ces cyclistes, c'est vraiment le niveau 0 de la hiérarchie. Alors, non pas qu'ils sont nuls, mais ils vont à 4-5 km/h. Généralement, ils n'ont pas très bien bien compris qu'il fallait monter la selle un minimum pour bien pédaler.
Quel bâtard. Le genou n'est pas dans l'axe. Hein. En général, c'est en claquette et ça pédale en crabe. Hein.
Et possède très souvent un grand panier avec des légumes sur leur champ dans lequel ils sèment sur la route, évidemment pour retrouver leur chemin en cas de perte. Difficulté à gérer, je note 5 sur 10. Hein. Attention aux légumes qui tombent, c'est quand même très très chaud. Niveau 1, l'adolescent et son fat bike. Ah, le meilleur. Ah, celui-là, c'est un de mes préférés, bien entendu. Je rappelle, un fat bike, hein, c'est fait pour rouler sur les plages. Mais voilà, visiblement, il y en a qui s'en servent pour frimer sur les pistes cyclables. Voilà, les adolescents nés après 2010 adorent évidemment tout cela. Il est important de baisser la selle au maximum.
Les adolescents nés après 2010.
Oui. Bah oui, 12 ans, t'es adolescent.
Oh, ouais, c'est peut-être
ouais,
un
Michael,
peu...
c'est fou, mais on est vieux. Oh, on est très très vieux. Hein. Oui.
Oh, putain.
C'est vraiment très très chaud. Il est important de baisser la selle au maximum, hein, pour faire comme sur une moto et rouler le plus lentement possible, de préférence avec des enceintes qui crachent du bon gros rap nul français. À la con, à plein pot, difficulté de gestion, j'ai noté 2 sur 10. Hein. Faut juste supporter le désagrément, évidemment, de la musique que moi je note de merde, mais bon, que Daz adore. Hein. Bien sûr, le rap français, oui, c'est sa vie. Niveau 2, les familles avec enfants. Alors ça, on en croise vraiment beaucoup, hein, que ce soit avec caravane, sans caravane, avec justement de magnifiques longues tails,
eh ben oui,
sur les chemins. Hein. Pour être comptabilisé, il faut minimum avoir 2 enfants, parce que sinon, ça compte pas. Un enfant, c'est le mode easy, dont un de moins de 6 ans. Qui roule en faisant des grandes embardées à gauche,
ah,
et à,
oui,
droite.
Ah oui, ça, c'est la pulsion de mort des enfants, ah, c'est problématique.
Ils se déplacent généralement entre 8 et 12 km/h. Un certain bambin étant dans les chariots derrière leur papa, ils ne posent pas de difficultés. Par contre, attention, l'enfant de 6 ans à vélo est totalement imprévisible.
Bah oui.
Il ne regarde jamais l'angle mort. Il va à droite, à gauche. Il n'entend pas ses parents qui lui disent « Attention, vélo derrière !» Du coup, difficulté à gérer, 9 sur 10. Hein. Les enfants, c'est vraiment très accidentogène. Faites super attention à ça. Niveau 3, le cycliste lambda. Bon, il va de 15 entre 18 km/h. Voilà, le soir, il regarde Netflix. Il n'a rien de particulier. Il rêve du vélo électrique de Daz. Mais bon, il ne l'aura jamais. Difficulté 5 sur 10. Parce que finalement, il croit savoir rouler, mais il a plus d'accidents que les autres. Bref, c'est pas si grave que ça. Niveau 4, le cyclo-randonneur. Donc lui, c'est un peu ma catégorie.
Oui,
tu vois.
Oui.
Donc globalement, il part avec 3 slips et 3 t-shirts. Hein, voilà.
Et un beau garde-boue.
Et un magnifique garde-boue.
Non,
exactement.
Un
porte-bagage. Je peux avoir un beau garde-boue, pardon.
Alors, c'est pas mon cas, mais souvent, avant, il était trader et puis il a choisi de changer sa vie pour partir en itinérance à vélo, histoire de donner un peu de vie, de sens à sa vie. Mais bon, il a quand même un vélo à 4 et il en est très très content. Difficulté à gérer, 10 sur 10, hein, car il bah oui, parce qu'il est super sympa, il arrête pas d'essayer de vous parler. Il vous aggro et dit « Ah, vous partez d'où? Vous faites quoi ?» Et du coup, tu peux jamais déchoper, c'est super chiant. On en a eu plusieurs ici. Super. Niveau 5, le cycliste de route. Voilà, donc vous le savez, c'est le profil à la con. Il a un vélo à plus de 5000 balles avec marqué S-Works dessus. Un système mécanique DI 32000 avec sa vélo Domax claqué sur son barrage. De toute façon, il va à 35 km/h, il vous calcule pas et il vous passe sans vous regarder. Difficulté à gérer, évidemment, 0 sur 10, puisque il ne vous tiendra même pas rigueur d'exister. Il vous dépassera comme c'est pas permis. Et j'ai noté un petit dernier, le niveau 6, hein, le vieux torse nu sur son VTT. Alors attention, lui.
Ah, c'est eux et les Pantani.
Voilà.
Les mecs qui ont les vélos fluo des années 90 avec le maillot de l'US Postal.
Exactement.
Les mecs, ils ont leur supply de PO depuis 90. Ils sont crâne rasé.
Ouais.
Les mecs, ils sont crâne rasé, ils ont pas de casque et ils roulent à 70.
Voilà, merci. Alors eux, ça fait 60 ans qu'ils font du vélo. Ok, ouais. Ils ont jamais appris ce que c'était une optimisation de vélo, mais ils en ont rien à foutre. Ils ont un vieux PTT tout pété du cul qui vaut probablement 10 euros. Les mecs vont à 300 km/h. T'as l'impression qu'ils sont en 200 cc à Mario Kart et ils te calculent pas difficulté à gérer. J'ai noté vraiment 10 sur 10, hein, parce que pour l'estime de soi, voir te faire dépasser par un mec de 60 ans avec tes torse nu mal réglé, ça fait très 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 mal.
Comment tu places les. Parce que moi, je croise beaucoup de gens avec des VTT, ce que j'imagine être des VTT, mais avec des guidons mais giga.
Pour moi c'est les fat bikes, mec. Ils vont pas vite et ils ont des vélos.
Ils prennent une place et demie,
totalement inadaptés à l'environnement dans lequel ils sont.
C'est un truc qui devrait pas être là.
Parce que les guidons sont méga larges, en fait.
En fait, les guidons larges, c'est fait pour te donner plus de contrôle sur les bosses. Tu vois, genre, quand tu commences à prendre de la caillasse, en fait, t'as plus de levier. Donc, tu prends pas le guidon dans la gueule. Sauf qu'en fait, si tu roules sur une piste cyclable,
T'as l'air con, ouais, je confirme.
Juste, t'accroches les poussettes, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Voilà, bilan en tout cas de ces vacances. 5 jours d'hôtel à environ 100 euros de moyenne. Parce que bon sang, le 13 juillet, c'est quoi le 13 août là? Le 15 août là? Qu'est-ce qu'ils se font plaisir hein, quand même? Les trucs. Donc, 500 balles, un nouveau porte-bagages, un ensemble après.
Non, mais ça, on le compte pas parce que.
100 euros,
l'individu normal.
Et de la bouffe beaucoup trop chère, mais sinon, plein de photos, plein les yeux. Et puis le reste nous a coûté rien du tout. Zéro en essence. Allez, si, en train, on en a eu pourquoi? Au grand max 250 euros. Aller-retour, tu vois.
En tout cas, sur le podium bilan carbone, c'est toi qui es en haut, quoi. De nous trois.
Ouais, je suis en haut parce que j'ai beaucoup de carbone sur mon vélo.
Alors, pas du tout, puisque moi, je suis allé en vacances en TGV et qu'après, j'ai pas bougé pendant 2 semaines.
Ça, c'est vrai que si tu bouges pas, c'est bien.
C'est que j'allais chercher les viennoiseries du matin en vélo.
Ah, et les grosses courses des 2 semaines.
C'est
un homme sain.
C'est pas moi qui les faisais.
En tout cas, la Via Rhôna, je vous recommande, et la plupart des Via Cyclas, je vous recommande. Si vous voulez vraiment tenter la meilleure expérience possible, je vous conseille de faire Lyon-Genève via la Via Rhôna. Mmh. C'est le plus beau et le plus aménagé, puisque plus on s'approche de Genève, plus c'est riche. Mieux c'est entre
le macadam. Alors je me permets quand même de rappeler que Genève est en Suisse et que la Suisse c'est dans les Alpes. Voilà. Après vous ferez ce que vous voulez, cette information.
J'essaie évidemment de vous attirer peut-être sur des terrains un peu plus pentus.
Légèrement.
Mais c'est vrai que le trajet que j'ai fait était essentiellement plat et c'était tout tranquille.
Comme disent les Québécois.
Juste écoute. Une dernière question. Est-ce que rétrospectivement le Ventoux, si tu devais le refaire, tu le ferais de la même manière ou tu te préparerais peut-être un peu mieux?
Non, le Ventoux, si je devais le refaire, je ferais au moins 2 ascensions et pas qu'une seule.
Ah, donc tu le referais.
J'aimerais bien atteindre à terme les 3 ascensions du Ventoux, ce qui rentre dans la catégorie des fous du Ventoux.
Cinglés du Ventoux.
Voilà. Et non, je le referais de la même manière. Si peut-être.
C'est
si
pas
je
4
me...
Parce que moi, j'ai un ami qui a fait ça cet été.
4
Oui, je crois que c'est les 4.
Non, il me semble
que
c'est 3. Bédouin, Malocène.
Ouais, il me semble que c'est 3.
C'est-à-dire que
je l'inviterai la prochaine fois puisqu'il a fait ça.
C'est 3 ou 4 en même temps, enfin à la suite.
Oui, à la suite, à la suite.
Ou tu fais pas genre 1 et puis après 4
à la suite, oui.
Ok. Non, pourquoi ça? C'est parce que voilà, c'est mieux.
Bah parce que déjà, ça te fera en tout et pour tout quand même quelque chose comme 6000 de D+, ce qui est vraiment pas mal, hein, à mettre en une seule sortie. Et puis parce que c'est, je pense, le plus gros défi que tu peux faire en France, quoi.
Voilà. Oh, t'as l'étape du Tour de cette année qui était quand même bien énervée, hein.
Ouais, j'avoue.
Mais
personne l'a terminé, donc
il y a quasiment la moitié, je crois, qui ont fini.
Ouais,
attendez, là on est sur des trucs imbitables, donc je ne comprends plus rien.
Pardon, l'étape du tour, c'est le.
Oui, non, mais qu'on rentre dans des détails, donc du coup, venez, on en parle aussi une autre fois.
Okay.
Let's go. En effet, donc.
Restons sur les vacances, sur le bilan, du coup. Tu recommandes.
Je referai, ouais. Je suis étonné de voir le nombre de gens d'ailleurs qui montent le Mont Ventoux en fait en voiture, juste pour voir la vue.
ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on parle d'un bilan carbone qui doit être positif. Ou en tout cas le plus neutre possible.
Ouais.
Alors qu'avec ce que t'as dû expirer en CO2 quand t'étais en train d'en chier littéralement sur le Mont Ventoux, t'as dû polluer de ouf.
Je sais pas, ouais, peut-être. J'ai beaucoup pété aussi.
Ça sera le mot de la fin.
Ce sera le mot de la fin. Merci évidemment à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Daz d'avoir participé à cet épisode. Chloé, bien entendu.
Merci.
Mon cher
un plaisir.
Victor.
On vous attend sur le Discord pour vous poster tous nos itinéraires qu'on a fait.
Victor vous attend sur le Discord.
Voilà, si vous avez la moindre question concernant les itinéraires ou des choix pour faire de l'itinérance, n'hésitez pas. Remercie Ghislain.
Mais bien sûr, Ghislain, monsieur 404, bravo à lui.
Voilà. Bon retour évidemment, Commute. Bienvenue à tous sur les podcasts de qualité. Bisous à tous, à la prochaine.
Ciao.